Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. André Malraux, 1901-1976. Dandy, élevé à Bondy au-dessus d'une confiserie, éditeur de livres d'art et de textes érotiques, pillard, journaliste anticolonialiste, romancier à succès, prix Goncourt pour la condition humaine, chef d'escadrille pendant la guerre d'Espagne, résistant tardif, qui finit la guerre avec panache à la tête de la brigade Alsace-Lorraine, propagandiste gaulliste et premier ministre de la culture inspirée, et puis last but not least, essayiste et anti-mémorialiste, amateur de frissons sacrés, André Malraux aussi, sur son piédestal entre légende noire et légende dorée, des éclairs et de la fumée, disait dans les années 1920 son ami Drieux La Rochelle. Et ce sont ces deux profils contradictoires et par la même féconds que nous vous donnons à découvrir ou à redécouvrir dans ce numéro spécial d'Une vie, une œuvre, enregistré en public au Panthéon à l'occasion des 30 ans de notre émission. André Malraux, une émission de Martin Kénéen et Doria Zénine.
Un chahut de camions chargés de fusils couvrait Madrid tendue dans la nuit d'été. Depuis plusieurs jours, les organisations ouvrières annonçaient l'imminence du soulèvement fasciste, le noyautage des casernes, le transport des munitions. Maintenant, le Maroc était occupé. À 1h du matin, le gouvernement avait enfin décidé de distribuer les armes au peuple à 3h. La carte syndicale donnait droit aux armes. Il était temps. Les coups de téléphone des provinces, optimistes de minuit à 2h, commençaient à ne plus l'être. Le central téléphonique de la gare du Nord appelait les gares, les unes après les autres. Le secrétaire du syndicat des cheminots, Ramos, Emmanuel, désigné pour l'assister cette nuit, dirigeait. Sauf la Navarre coupée, la réponse avait été ou bien le gouvernement est maître de la situation, ou bien les organisations ouvrières contrôlent la ville en attendant les instructions du gouvernement. Mais le dialogue venait de changer. Allô ? Huesca ? Qui parle ? Le comité ouvrier de Madrid. Plus longtemps, tas d'ordures, arriba España. Au mur, fixé par des punaises. L'édition spéciale, 7h du soir, de Claridad. Sur 6 colonnes, aux armes, camarades. Allô, Avila ? Comment ça va chez vous ? Ici la gare. Va te faire voir, salaud. Vive le Christ roi. À bientôt. Salud. On avait appelé Ramos d'urgence. Les lignes du Nord convergeaient vers Saragosse, Burgos et Valladolid. Allô, Saragosse ? Le comité ouvrier de la gare ? Fusillé. Et autant pour vous avant longtemps, arriba España. Allô, Tablada ? Ici Madrid Nord, le responsable du syndicat. Téléphone à la prison, enfant de putain. On va aller te chercher par les oreilles. Rendez-vous sur l'Alcala, 2e bistrot à gauche. Ceux du central regardaient la gueule de jovial gangster frisé de Ramos. Allô, Burgos ? Ici le commandant. Plus de chef de gare. Ramos raccrocha.
En 1937, dans le roman d'André Malraux, L'Espoir, souffle le vent des événements historiques de la guerre d'Espagne et puis celui de l'aventure. Pour vous, Eddie Cadour, Malraux serait-il d'abord cela, un aventurier, avant que l'on déplore, comme ne cesse de le répéter, le personnage que vous avez en partie emprunté à Malraux dans votre roman Waltenberg, que l'aventure est foutue?
Oui, pour ce qui est du personnage proprement dit de Malraux, je pense que Olivier Todd en parlera avec plus de précision que moi. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement la notion d'aventure à l'intérieur de ces romans, la façon dont il renouvelle en quelque sorte le roman d'aventure, presque dans la lignée de ce que Rivière, dès 1913, avait appelé le roman d'aventure et un plaidoyer pour le roman d'aventure. Et ce qui est intéressant dans la notion d'aventure, ce sont les deux choses au fond. D'une part, l'aventure au sens le plus ordinaire du terme, presque proche de événement, vous voyez, donc ce qui survient. Et puis ce dont un personnage s'empare pour se transformer et advenir à lui-même en même temps. Il y a à la fois de l'événement et de l'avènement dans l'aventure. Et puis un autre aspect, peut-être, dont on parlera un peu plus loin, c'est la façon dont Malraux s'aventure lui-même à la fois dans la phrase. Vous voyez, il reprend aussi la formule Flaubert, quoi. Les phrases sont des aventures. Et j'aimerais à un moment donné montrer comment cet écrivain part à l'aventure dans sa phrase.
Olivier Todd, vous êtes donc le biographe rigoureux et critique d'André Malraux avec votre biographie Une vie. Mais vous aimez par-dessus tout l'espoir, peut-être en tant que récit d'aventure authentique ?
Absolument. Et puis, pour l'aventure aérienne, Malraux s'est placé tout de suite après Saint-Exupéry. Hein. Les avions sont dans les romans. Et plus tard, Sartre, lui, mettra le garçon de café dans la philosophie. Mais je trouve que c'est très bien d'avoir commencé cette émission avec la première page. Sauf qu'on a caviardé un petit peu. Hein. Il y a une ou deux phrases sur « on va vous couper les couilles, physiologiquement impossible ». Vous avez été très pudique, là.
Bon, mais pas du pour tout, revenir à l'espoir. C'est un peu plus loin, parce qu'il faut rappeler que cette scène d'action qui nous met une medias res dans la guerre d'Espagne, le lancement des hostilités, dure quelques pages de plus que ce que André Luce nous a lu.
L'espoir, à mon avis, est un livre extraordinaire. Ces temps-ci, parce qu'on change d'avis à propos de Malraux quand on le relit, je pense honnêtement que c'est un des plus beaux romans français du siècle. Et alors, par rapport à ça, moi, les œuvres même de Camus ou de Sartre ou d'Aragon que je pouvais admirer tombent. Et alors, quand on pense à la façon dont il a écrit l'espoir, c'est extraordinaire. Rarement, quand on a le nez sur l'événement, peut-on créer. Il faut généralement un délai. Hein, Tolstoï attendra pas mal de temps pour Guerre et Paix. Sartre attendra un peu moins, mais il se cassera la figure pour Les Chemins de la Liberté. Malraux, lui, quelques semaines avant la fin de la guerre d'Espagne, quelques mois, il est dans le midi de la France et il écrit, il carbure au vin blanc et au Pernod. Il carbure pas du tout à l'opium. Il trouvait que ça faisait plus chic de laisser entendre qu'il était dans l'opium. Et il écrit très vite, et il écrit avec une puissance et une conviction extraordinaire. Et je crois qu'il y a une raison à cela, c'est que c'est le seul roman qu'il ait écrit dont on peut dire qu'il avait vécu les événements. Parce que tout le reste, il a inventé qu'il avait été en Chine, il a un peu caviardé sa vie dans les anti-mémoires. Mais l'espoir, il y a un souffle qui, à mon avis, dur, même quand on est critique politiquement. Parce que quand on regarde de près, avec un recul, ce livre politiquement, comme Clara Malraux lui avait fait remarquer, parce qu'il allait montrer son manuscrit à Clara Malraux, pas du tout à Clotis avec laquelle il vivait. C'est quand même curieux. Et le bouquin est très communisant, stalinien, communistoïde, comme on disait à l'époque, hein, et stalinoïde. Et alors, à mon avis, c'est une réussite assez considérable, et je ne vois pas de parallèle, vous en verrez peut-être un, vous, de cette création-là, c'est sorti. Je vois un exemple, mais il n'a presque aucun rapport, c'est le livre de l'Américain Stephen Crane, qui a écrit Le cœur rouge du courage, The Red Badge of Courage, sans avoir jamais mis les pieds sur un terrain. Malraux, lui, était incapable de faire ça, je crois. Ses tentatives de description d'autres situations politico-militaires, même la condition humaine, ça ne tient pas la route, à mon avis.
Olivier Todd, vous qui avez creusé dans les archives du Comintern, vous avez trouvé les traces d'une tentative d'assassinat par les communistes qui le jugeaient trop proche des anarchistes.
Oui, ça, les tentatives d'assassinat de Malraux, je crois que ça fait partie de ses légendes, de sa mythomanie. Mais que les communistes se soient méfiés de lui, c'est tout à fait vrai. Mais pour être juste, quand il est mort, Andrieux, je crois, dans L'Humanité, pour le saluer, a dit « André Malraux a défait un certain nombre de communistes, mais il en a fait encore plus ». En tout cas, ce qu'il nous a laissé, c'est une espèce de nostalgie bizarre sur la guerre d'Espagne. Parce que ça aussi, aujourd'hui, il faut replacer dans le contexte. Supposer que les Républicains aient gagné en Espagne, comme me l'a fait remarquer Nothomb, son adjoint à l'escadrille Espagna, si les communistes avaient gagné en Espagne, on aurait peut-être eu une démocratie populaire à la porte de la France. Mais ça nous entraîne.
François de Saint-Chéron, puisque nous sommes dans le Panthéon, aujourd'hui, pour les 30 ans d'une vie, une œuvre, et pour célébrer l'œuvre et la vie d'André Malraux, dans votre Panthéon personnel, parmi toutes les œuvres d'André Malraux, quelle place tient l'espoir ?
Une très grande place, sans aucun doute. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Olivier Todd. C'est un roman absolument magnifique et impressionnant, effectivement, quand on pense aux conditions dans lesquelles il a été écrit. Alors, il y a cette modernité très grande, cette écriture saccadée dans ce qu'on vient d'entendre, mais il y a aussi, dans certaines fins de chapitres, notamment, des passages très lyriques, où Malraux atteint un ton lyrique tout à fait admirable, qu'il a toujours eu, d'ailleurs, qu'il a déjà dans La condition humaine, et c'est une des choses qui m'intéresse le plus dans le style de Malraux, précisément, ce mélange entre une écriture extrêmement moderne, syncopée, avec des phrases nominales, etc., des choses parfois difficiles à la première lecture ou même à l'audition, et ce qu'on pourrait appeler un grand ton à la Chateaubriand, si vous voulez, l'écriture, héritage de l'éloquence française. Il y a ce mélange qui est tout à fait extraordinaire, une grande éloquence réactivée, dynamisée par une modernité extrême.
Après la guerre d'Espagne, André Malraux se retrouve embarqué dans une autre guerre, la Seconde Guerre mondiale, à propos de laquelle il a à plusieurs reprises chanté avec ce grand ton à la Chateaubriand le courage des résistants, comme ici le 14 juillet 1958 à l'Hôtel de Ville de Paris.
La résistance, la vraie, celle que symbolise ici le président de son Conseil national, l'ensemble des forces clandestines qui avaient pour mission de préparer l'insurrection, était beaucoup plus mal connue. À cause de son caractère secret, à cause de trop d'efforts pour l'annexer depuis qu'elle a disparu. Peu importe, ces morts se sont reconnus entre eux, à ce qu'ils sont tombés sous les mêmes balles ou morts dans les mêmes camps. Aucun des combattants de la 2e DB qui sont ici n'a oublié le sentiment qu'il éprouva lorsque sa division se trouva pour la première fois en face des chars allemands. Aucun résistant n'a oublié le sourire crispé qu'il sentit passer sur ses lèvres lorsqu'entré la veille dans la résistance, et revolver en poche ou non, il rencontra le premier officier allemand. Ni le sentiment qu'il éprouva lorsqu'il échangea les signes de reconnaissance avec son premier camarade inconnu. Sentiment d'autant plus profond qu'ils étaient liés en 44 à la menace de la torture, à la connaissance des camps d'extermination qui déployaient jusqu'à la Baltique l'atroce cortège d'ombre qui attendait les vaincus. Survivants de la résistance, mes frères dans l'ordre de la nuit, vous pouvez vraiment dire, sans avoir besoin d'élever la voix, que vous avez combattu en face de l'enfer.
Olivier Todd, oui, à propos de la résistance, se révèle dans votre biographie de Malraux un Malraux mystificateur, auteur d'une résistance qu'on pourrait qualifier de farfelue, pour reprendre un adjectif qu'il affectionnait.
Farfelue ou simplement mensongère, la mythomanie existe. Malraux, d'ailleurs, de son vivant, disait volontiers « on raconte que je fabule, mais il se trouve que mes fables, petit à petit, viennent à coïncider avec la réalité ». Ce n'est pas vrai, d'ailleurs, mais pour en revenir au discours du Panthéon, il y a une chose quand même qui me frappe beaucoup. À lire, il y a, je crois, les réactions des gens de ma génération qui ont eu pour Malraux pas mal d'admiration et qui, en l'écoutant même maintenant, rejoignent les jeunes, mes enfants, qui trouvent Malraux orateur horriblement pompier. Pompier, pompeux, excessif. Alors, j'ai testé sur moi-même. En effet, je le trouve pompier, même si nous sommes au Panthéon et qu'il faut avoir tout le respect dû, etc. Mais il faut lire le texte. Le texte n'est pas mal. Simplement, ce qui soulève comme problème, le vocatif, vous savez, Jean Moulin. Alors, il se met à hauteur de Jean Moulin, c'est Jean Moulin et moi. Ça pose le problème de la non-résistance de Malraux. Malraux n'a jamais été résistant. Il a été chef de la brigade d'Alsace-Lorraine, il n'y a aucun doute. Il a été très, très courageux. Mais je crois que la résistance de Malraux, c'est le cœur de sa mythomanie.
Vous dites d'ailleurs, Olivier Todd, à propos de la résistance, Malraux a eu de la chance, il a eu du culot, il a eu du courage, mais il n'a pas exercé de commandement. C'est quand même déjà pas mal. Eddy Cadour ?
Il y a quelque chose qui m'a saisi. La mort de Kyo dans La condition humaine. Ouais. Kyo est en train d'agoniser, donc c'est un gisant. Et il part dans un monologue intérieur. et il aurait combattu pour ce qui de son temps aurait été chargé du sens le plus fort et du plus grand espoir. Et progressivement, cette voix qui est celle du monologue intérieur d'un mourant cède la place à la voix du narrateur qui se transforme en voix d'oraison funèbre. Et si on reprend la scénographie de cette scène de la condition humaine, c'est-à-dire un espace circonscrit, le préau des condamnés, un murmure de public, entre guillemets, autour de lui, qui sont les futurs condamnés, et cette voix d'oraison funèbre, on a en 1933 préfiguré la scénographie de ce qui sera le 19 décembre 1964, l'oraison funèbre de Jean Moulin, avec des expressions qu'il reprend à la fois dans le discours de 58 sur nos frères dans l'ordre de la nuit, qui viennent de la condition humaine, puisque dans la condition humaine, il est question de frères dans l'ordre mendiant de la Révolution. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a réussi à préfigurer dans son œuvre ce qu'il fait une trentaine d'années plus tard. C'est quand même pas mal.
Je trouve que là, vous êtes très malroussien. Vous anticipez énormément.
Non,
Malraux était très, très fort lorsqu'il s'agissait de prévoir. Très fort ou très faible. Par exemple, moi, je me souviens qu'un jour, il m'a dit, après au moment où Franco allait mourir, en Espagne, il n'y a qu'une seule force politique, hein, vous savez, avec l'accent qu'il avait, et c'est les anarchistes.
Oui, c'était un peu
aujourd'hui,
tard.
On cherche les anarchistes en Espagne. En revanche, j'ai retrouvé un fragment où il prévoit que le siècle suivant sera important, le nôtre, le 21e, à cause de l'islam. Aujourd'hui, on se dit qu'il avait pas mal vu.
La question de la mystification, François de Saint-Chéron, André Malraux ne cache pas son goût pour le mensonge. Il laisse des indices dans son œuvre quand il fait dire à ses héros « la mystification est éminemment créatrice » ou encore « tout aventurier est né d'un mythomane ». Mais alors, quelle importance, selon vous, la mystification a-t-elle eu dans sa vie ?
Bon, Malraux était mythomane, hein, y a pas de doute, mais... Moi, ça ne me gêne pas outre mesure, parce que, si vous voulez, Chateaubriand aussi était mythomane. Il a inventé dans les mémoires d'outre-tombe, tout le monde sait, des choses qui n'ont peut-être pas eu lieu, des choses considérables, quand même la rencontre avec Washington, par exemple. Giono était très menteur aussi. Et je m'étonne toujours qu'on fasse tellement grief à Malraux d'avoir menti et qu'on le pardonne aisément à Chateaubriand. Quant à Giono, il y a peu de gens qui le savent.
Louis Guilloux, écrivain, ami de Malraux, oui, dont vous avez édité la correspondance avec André Malraux, oui. François de Saint-Chéron disait « on pardonne tout à André Malraux ».
Oui, oui, mais Guilloux avait une grande affection pour Malraux, une amitié ancienne. On peut parler indéfiniment de la mythomanie de Malraux. Cela dit, il n'y a pas que des mensonges dans son œuvre. J'ai eu la chance de rencontrer un jour Léopold Senghor, et vous savez que dans un des chapitres de La corde et les souris, qui est le volume qui fait suite aux Antimémoires, il y a une longue conversation avec Senghor qui a eu lieu à Dakar en 1966 à l'occasion de l'inauguration du premier festival mondial des arts nègres. Initié par Senghor, Malraux était ministre des Affaires culturelles à ce moment-là, il est allé à Dakar, et Senghor m'a dit « tout ce que Malraux me fait dire, je l'ai dit réellement ». Et Bergamine m'avait dit la même chose pour les dialogues avec Guernico dans l'espoir. Il me disait tout ce que Malraux met dans la bouche de Guernico, c'est l'écho de conversations qu'on a eues réellement.
Alors, avant l'indépendance du Sénégal, avant que Malraux ne devienne ministre des Affaires culturelles, donc le premier ministre de la Culture de la France, de la Ve République, avant même la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Espagne, Malraux avait épousé à l'âge de 19 ans Clara, dont il avait dilapidé la fortune en la confiant à son père, Fernand Malraux. La nécessité de se refaire poussa alors André vers d'autres horizons géographiques et littéraires, comme en a témoigné Clara au micro de France Culture.
Je lui ai dit « qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il m'a répondu, mais avec le plus grand calme, avec une sorte d'évidence qui a fait que j'ai trouvé aussi la phrase absolument raisonnable. Il m'a répondu « vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler ?» Mais en effet, il ne me semblait pas que c'était ce qu'il pouvait faire. C'est vrai, il fallait tout de même que nous sortions de cette histoire-là. Alors je lui ai dit « bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il m'a dit avec la plus grande simplicité, la route royale qui va d'Angkor au Siam, à travers les Dorèques, ce sont de grandes montagnes. Nous allons aller Angkor, nous prendrons cette route, nous trouverons l'équivalent d'une petite chapelle, nous prendrons les statues et nous les rapporterons en France ou nous les enverrons en Amérique. Et nous deviendrons très riches, au moins assez riches pour vivre comme nous venons de le faire, agréablement, pendant 2 ou 3 ans. Ça ne m'a pas paru absolument déraisonnable. Ça ne m'a pas paru raisonnable non plus, naturellement, mais je me suis dit que c'était une solution. Et nous nous sommes préparés à partir au Cambodge, trouver le temple qui nous attendait.
Depuis 4 jours, la forêt. Depuis 4 jours, campement près des villages, nés d'elles comme leur bouddha de bois, comme le chaume de palme de leur hutte sorti du sol mou en monstrueux insectes. Décomposition de l'esprit dans cette lumière d'aquarium d'une épaisseur d'eau. Ils avaient rencontré déjà des petits monuments écrasés aux pierres si serrées par les racines qui les fixaient au sol comme des pattes, qui ne semblaient plus avoir été élevés par des hommes mais par des êtres disparus, habitués à cette vie sans horizon, à ces ténèbres marines. Décomposée par les siècles, la voie ne montrait sa présence que par ses masses minérales pourries, avec les 2 yeux de quelques crapauds immobiles dans un angle des pierres. Promesse ou refus, ces monuments abandonnés par la forêt comme des squelettes, ils auraient dû être arrivés depuis 3 heures. Claude sombrait comme dans une maladie, dans cette fermentation où les formes se gonflaient, s'allongeaient, pourrissaient hors du monde dans lequel l'homme compte, qui le séparait de lui-même avec la force de l'obscurité et partout les insectes.
Eddie Cadour, l'aventure cambodgienne d'André Malraux, c'est une affaire de pillage de statues pour laquelle il a risqué 3 ans de prison. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un rite initiatique et le premier temps d'un engagement qui, pour vous, je crois, est indélébile ?
Ce qui se passe surtout, c'est qu'après s'être fait coincer dans cette histoire de pillage, il transforme, après avoir été soutenu, il transforme au fond les raisons de sa présence. Et il devient un acteur de l'anticolonialisme sur place.
Alors, oui, enfin, c'est un raccourci de votre part. Parce que Olivier Todd, ici même, Chirac,
au Panthéon en 1996,
n'a pas dit qu'il avait pillé le Cambodge, un petit temple à Sandraï au Cambodge. Il a dit qu'il avait prélevé.
Quand on lit la voie royale, c'était assez difficile de prélever.
Il est parti pour des raisons commerciales autant que archéologiques. Avec Gaston Gallimard, ils avaient établi une société qui traficotait. Alors quand je suis tombé sur ce dossier, je l'ai dit à Antoine Gallimard, qui a eu le bon goût de rire parce qu'il n'était pas au courant. Malraux, entre autres choses, et ça n'enlève rien à la qualité de son œuvre littéraire, aimait l'argent. Il aimait beaucoup l'argent. Et à la Libération, il en avait énormément. Et quand le général de Gaulle a été chez lui à Boulogne, voyant la richesse de l'appartement, il s'est tourné vers Guy, son aide de camp, et il a dit « Mais d'où ça vient tout ça ?» Et Guy a dit d'un air vague « Ça vient probablement de ses droits d'auteur. » Et si on vérifie, les droits d'auteur de Malraux étaient toujours à découvert chez Gallimard.
Il a commencé dans le pillage, et ensuite, il a transformé les raisons de sa présence en Indochine en raisons politiques.
D'accord, mais voilà. C'est deux chapitres très
différents. Tout à fait, mais si vous voulez, c'est un peu, en même temps, c'est à mettre au compte, si vous aurez peut-être envie de le faire, au compte d'une certaine habileté et une capacité du personnage à changer de cap dès que quelque chose...
Politiquement, Malraux mûrit d'un coup en Indochine, à Saïgon. Ou alors il fait un journal extraordinaire, exemplaire, anticolonialiste, il arrive à faire rendre des terres à des paysans. Et à partir de là, c'est là que son parcours politique devient très, très curieux. Encore que quand il est à Saïgon, quand il est au Cambodge, quand il est à Saïgon, il n'est pas conscient de l'existence du Parti communiste. Ses rapports avec les communistes, chapitre en soi, sont très, très curieux.
Eddie Cadour ?
Non, juste que à l'époque, dans ces années 20, le Parti communiste est encore à l'état embryonnaire en Indochine.
Ho Chi Minh a déjà été à Moscou.
C'est ça, mais c'est quoi que c'est Ho Chi Minh.
Mais précisément, Malraux aussi se rend à Moscou, François de Saint-Chéron, en 1934, sorte de compagnon de route, invité d'honneur d'un salon des écrivains soviétiques, d'où il rapporte l'extraordinaire carnet du RSS que vous avez édité dans la Pléiade. Est-ce que vous nous diriez quelques mots de ces surprenantes observations de Malraux, justement, au pays des soviets, en 1934?
Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, ce carnet n'était pas destiné à la publication, parce que le carnet, le journal de bord, ce n'est pas tellement le style de Malraux. Mais il l'a tout de même tenu et il l'a conservé. Bon, ensuite, avec l'accord de Florence Malraux, qui est sa fille et son exécutrice testamentaire, Jean-Yves Tadié et moi, nous avons proposé à Antoine Gallimard de publier ce carnet, qui est un document très intéressant. Et donc, il a été édité il y a quelques années et puis repris dans la Pléiade. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus, effectivement. D'abord, un certain aveuglement, il faut bien le dire. Était-il vraiment délibéré ou bien n'a-t-il vu que ce qu'on lui montrait ?
C'est l'époque, ça. Tout ce qu'allait à ce congrès, on dit des balourdises. Le seul qui tire son épingle du jeu à l'époque, c'est Gide.
Absolument, absolument. Mais tout de même, pendant le congrès, Malraux a dit des choses qui ne plaisaient pas à tout le monde,
hein,
n'est-ce pas ?
Ah oui, très fort.
Hein, sur le refus du réalisme
socialiste,
sur des ingénieurs de l'âme qui devaient vraiment être des ingénieurs, c'est-à-dire des inventeurs. C'était un discours qui ne plaisait pas forcément à la doxa stalinienne. Hein. Absolument. Il y a eu des accrochages avec Radek ou avec d'autres. Et de cela, d'ailleurs, il ne parle pas beaucoup dans le carnet. Un des aspects les plus intéressants du carnet, ce sont les bribes de conversation qu'il a pu avoir avec les grands cinéastes.
Eisenstein,
Poudovkin, par exemple, et d'autres aussi. Et puis, des notations très, très elliptiques vers la fin qui seront reprises, qui d'ailleurs, pour la plupart, ont été raturées sur le manuscrit, mais qui seront reprises un an plus tard, et peut-être même moins, quelques semaines ou quelques mois plus tard, pour être étoffées dans des scènes du temps du mépris. Le temps du mépris paraît en 1935. Et il y a certaines phrases qui sont comme des semences dans ce carnet qui vont germer dans le temps du mépris, des scènes notamment avec des popes qui tombent ensanglantés dans la neige, dans leurs grands habits de cérémonie, etc.
À propos du temps du mépris, Malraux, interviewé alors qu'il était à la tête de la brigade d'Alsace-Lorraine, interviewé par Stéphane, a dit que le temps du mépris, c'était un navet. Je m'excuse, je ne pense pas que ce soit un navet.
Je suis d'accord avec vous.
Ça se lit très, très bien. C'est une défense des communistes, incontestablement, des militants communistes, mais ça n'est pas un navet. C'est-à-dire que quand Malraux parle du monde extérieur, il faut avoir une pincée de sel et de poivre à portée de main, mais quand il parle de son œuvre, je crois qu'il s'aveugle.
Mais je crois que la raison pour laquelle il disait que c'était un navet, c'est une chose qui m'a été expliquée bien plus tard par Sophie de Villemorin, sa dernière compagne, à qui il en avait parlé. Il trouvait que la description qu'il faisait des prisons nazies était vraiment rien du tout par rapport à ce que la suite a révélé.
Il voulait démontrer quelque chose. Il a dit quelque part que ce n'est pas la passion, mais la volonté de prouver
Absolument.
Qui détruit l'œuvre
Absolument,
d'art.
Oui.
Mais là, non. Mettons le temps du mépris sur la table.
Disons-le, le temps du mépris, 1935, c'est ce court roman qui s'inspire de l'expérience d'un communiste allemand qu'il a rencontré à Moscou en 1934 et qui lui raconte son expérience des premiers camps de concentration mis en place par les nazis, où les communistes allemands sont parmi les premiers enfermés. Donc c'est un livre sur la torture et c'est un livre donc d'engagement communiste, d'engagement antifasciste. Une facette d'André Malraux qui a précisément séduit le cinéaste Jean-Marie Straub, qui a récemment librement adapté le temps du mépris dans son film intitulé Communisten et qui compte persister, Straub, dans la veine malrussienne dans son prochain film.
En ce moment, je suis en train de trafiquer, de piocher, de zappare, comme disent les Italiens, dans un aspect, les noyés de l'Altenbourg. Bon, et là, j'ai découvert que l'homme le plus fou du monde, c'est Malraux. C'est l'homme le plus fou du monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Au-dessus des prêtres, gouverneur était le roi. Sa puissance montait avec la lune. D'abord invisible, voilà qu'il commençait à se montrer quand apparaissait le croissant. Enfin, la pleine lune faisait de lui le vrai roi, le maître de la vie et de la mort. Alors peint ou doré avec sans doute l'aspect des rois précolombiens, paré du trésor royal couché sur un lit élevé, il recevait les lavages sacrés, les bénédictions des prêtres. Il rendait la justice, faisait distribuer les vivres au peuple, adressait aux astres la prière solennelle du royaume. La lune commençait à diminuer. Il se cloîtrait dans le palais. Quand enfin venait l'époque des nuits sans lune, nul n'avait plus le droit de lui parler. Son nom partout le royaume était interdit, supprimé. Dans le peuple entier, récolte, mariage, naissance étaient liés à ces événements. Les enfants nés pendant les jours sans lune étaient tués à leur naissance. Enfin, vous voyez ce que c'est que ce texte. Et tout ça est assorti de réflexions psychologiques que je barre sauvagement. Écoutez, qu'est-ce que c'est que des réflexions du genre « Il avait levé un doigt sec, pointu comme ses oreilles ». Je m'en fous de ça dans un texte pareil, donc je l'enlève. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est monstrueux. Et je voudrais faire un film comique.
C'est quoi ? Ça tient à quoi la puissance comique de Malraux, Jean-Marie Straub ?
À son inconscience.
Eddie Cadour, pour vous, je crois, comme pour Jean-Marie Straub, que ce soit dans Les Noyers de l'Altenbourg ou comme plus tôt dans La Condition humaine, André Malraux est un auteur comique.
Il nous a mis un fil dans les antimémoires à un moment donné, quand il dit pourquoi il appelle son livre antimémoire. Il dit, je l'appelle antimémoire parce qu'on y sent, je cite, souvent lié au tragique, une présence irréfutable et glissante, celle du farfelu. Alors qu'est-ce que c'est que le farfelu ? C'est un mot qu'il a trouvé chez Rabelais, enfin qui est né chez Rabelais d'ailleurs. Et qu'est-ce qui est donc dans un univers à la fois de comique et de grotesque ? Et qu'est-ce qui est farfelu dans, chez Rabelais, c'est dans le Carlivre, c'est l'andouille et le cervelas. Donc on est vraiment dans de la farce et on est vraiment dans l'ordre du comique et du grotesque. Et je voudrais maintenant revenir en arrière pour montrer comment un roman comme La Condition humaine, qui est pris par la faute de Malraux, je dirais, dans deux pathos. Dans les cadres de la réception, c'est le pathos révolutionnaire. Et puis plus tard, quand il quitte le camp révolutionnaire, ça devient le pathos de La Condition humaine, Pascal, etc. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant dans cette histoire-là. Si on prend par exemple le rôle du personnage de Clapic, qui est l'un des grands personnages du roman, quasiment il a une présence dans le texte qui est équivalente à celle de Kyo, qui est le personnage dit principal.
Rappelons qu'on est sur un fond de...
Et... Donc vous en remettez.
Non, j'en remets pas.
Vous êtes gonflé à Hélium.
Vous allez voir, parce que la suite, vous le direz peut-être si j'en remets.
On est dans la Chine en révolution et avec un personnage qu'on retrouve chez vous.
Si on prend les récits farfelus de Malraux. Ouais. Alors, lapin pneumatique dans un jardin français. On y trouve une chose tout à fait intéressante. C'est à un moment donné, dans une immense plaine de neige au ras de l'aube verdâtre, on voit des diablotins précipités dans des brasiers, des condamnés, dans un récit farfelu. Si on prend la mort de Katov maintenant, à l'intérieur de La Condition humaine, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la première mort de Katov, la fausse mort, qui se passe en Lituanie, je cite, sur une immense plaine de neige au ras de l'aube verdâtre. Il a quasiment repris la phrase du récit farfelu, mot à mot, comme ça lui arrive d'ailleurs de Rebond. Ce qui veut dire que ces textes continuent à vivre en lui. Et la deuxième mort de Katov, la vraie, à la fin de La Condition humaine, qu'est-ce que c'est ? C'est la mort de Katov jetée dans un brasier de locomotive. Autrement dit, La Condition humaine est quasiment le développement de ce motif qu'on trouvait dans les récits farfelus. Et ça, c'est pas non plus de l'hélium, Olivier Todd.
On a la démonstration ici même que les Malraussiens impénitents surtout,
c'est du texte.
Ceux qui ne veulent pas séparer le personnage mythomaniaque menteur de l'auteur, on peut dire assez génial. Continue, ça passe de génération en génération.
Non, mais vous ne m'entendez pas, je dis simplement, et je reprends ce que disait Gisors dans La Condition humaine, les romanciers ne sont pas sérieux, c'est la mythomanie qui l'est. Le travail qu'il fait n'est pas un travail de l'ordre du sérieux, c'est pas un travail de l'ordre de l'ennui, c'est de l'ordre effectivement de la création et du lâcher-tout.
Oui, c'est ça, vous êtes en train de dire que la vérité politique et historique n'a aucune importance du moment que c'est de la mythomanie.
Non,
c'est, la mythomanie,
cette œuvre, ce roman, est pris dans la double dimension du tragique et du comique. Et on oublie souvent la dimension comique à l'intérieur d'une œuvre, même comme celle de La Condition humaine. Il y a des passages extraordinaires de comique dans La Condition humaine. Ou alors, relisez-le.
Il n'y en a pas énormément.
Écoutez, quand Clapic fait l'oraison funèbre de Kyo, c'est un cantique. Deux pages avant, il y a Clapic qui nous raconte une histoire de cantique en Amérique latine qui est extraordinaire. Et qui est à se rouler par terre.
François de Saint-Chéron, vous, peut-être vous roulez-vous par terre, mais plutôt de joie et de bonheur à la lecture d'André Malraux depuis votre adolescence. Et plutôt que la part comique de Malraux, c'est depuis cette époque, mais encore aujourd'hui, me semble-t-il, la dimension poétique de son style qui vous a retenu et qui vous retient encore.
Oui, c'est juste, mais je ne pense pas être le seul.
Malraux, j'ai dit tout à l'heure, avait un très grand style. On peut aimer ou ne pas aimer. Hein, des gens qui n'aiment pas Rousseau et des gens qui n'aiment pas Chateaubriand. Bon, tant pis pour eux. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi pas ? Mais son style est effectivement magnifique, tout en étant très, très varié. J'aime autant la précipitation, la rapidité, la densité qu'on entendait tout à l'heure dans la lecture de Incipit de l'Espoir et qu'on retrouve dans toutes ses œuvres, d'ailleurs dans les romans des années 30 et dans les voies du silence, pourquoi pas un petit peu moins, mais dans les anti-mémoires dans les années 60 et même plus tard jusque dans Lazare, il y a des phrases courtes qui se suivent en se télescopant. Bon, ce que j'aime beaucoup chez Malraux, excusez-moi, c'est l'éloquence. C'est une phrase, par exemple, dans l'irréel, une très belle phrase où il évoque cette période où on redécouvre à Rome les statues antiques. Et Michel-Ange en sera très frappé. Il y a une phrase où il écrit « Les empires qui font dans la Bible leur grand bruit de feuilles mortes ont disparu. Nul ne connaît le tombeau d'Alexandre, mais Michel-Ange pose la main sur telle Aphrodite encore enrobée de terre. » comme sur un visage fraternel.
Ça vous épate, hein, ce genre de phrase ?
Ça me plaît, je trouve ça beau. Je trouve ça beau et je trouve ça pas du tout pompeux. Alors, ça dépend du ton sur lequel on le dit. On peut le dire d'une voix chevrotante et d'une manière ridicule, mais on peut ridiculiser tout ce qu'on veut. On peut ridiculiser un vers de Racine ou une phrase de Peggy. Bon, ça, c'est une chose qui est importante dans Malraux et qu'on retrouve dans ses oraisons funèbres. Alors, Olivier Todd disait, il vaut mieux lire le texte que... écouter l'enregistrement, bon, pourquoi pas, oui, mais la voix de Malraux était très belle aussi, c'est une voix chaude, grave, et je trouve que écouter certains discours prononcés par lui, c'est aussi très bien. Si on n'aime pas sa voix, alors il vaut mieux lire le texte, oui.
Eddie Cadour, vous êtes aussi dans...
Non, il sait faire des choses, par exemple, quand il y a des scènes à faire dans La Condition humaine, qui est un véritable art du roman en même temps, même si on n'est pas d'accord, Olivier Todd, quand il y a des scènes à faire, il ne les fait pas. Une fusillade, il l'arrête, au moment où ça va fusiller, c'est-à-dire le lendemain, les rouges reprenaient le village. Une attaque de train blindé, il l'amène jusqu'au point où l'artillerie va s'attaquer au train blindé, cut, il s'arrête d'écrire au moment où Robert Hossein commencerait à filmer.
C'est l'art de l'ellipse, voilà. Malraux l'a poussé très loin.
C'est l'art de la coupe sèche. La deuxième chose, c'est effectivement, il sait faire partir, je reprends, une phrase à l'aventure. Même dans son moment de grandiloquence, j'ai écouté ce discours en 64. En 64, j'étais étudiant, on se bagarrait dans la rue contre le plan Fouché, on prenait des coups sur la gueule, autrement dit, quand il y a eu cette cérémonie du Panthéon, on n'était pas très favorable. Bon, je l'écoute en direct, et qu'est-ce que j'entends à un moment donné ? Cette voix qui dit « Regarde de tes yeux disparus, regarde ». Ça, c'est la figure de rhétorique. Et Malraux commence dans la rhétorique. Mais la suite de la phrase, écoutez-la, « Regarde de tes yeux disparus, regarde, sous les chênes nains du Quercy, glissés derrière un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais, car elle ne croit qu'aux grands arbres. » Là, je suis désolé, mais je suis prêt à défendre cette phrase contre vous des heures et des heures.
Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même, ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé, avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant les affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombé sous les crosses. Avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères, dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais « Écoute, ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans. » Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodié dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt, lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot, avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo, avec les misérables, de celle de Jaurès, veillée par la justice. qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elles étaient le visage de la France.
C'était donc le discours prononcé en 1964 à l'occasion du transfert des cendres de Jean Moulin ici même au Panthéon où nous nous trouvons. Eddie Cadour, qu'est-ce que vous entendez dans cette lecture d'André Wims?
Oui, il y a un mélange. En même temps, ça me rappelle cette adresse à la jeunesse. Ça me rappelle quand même des réactions assez vives de certains résistants dès le lendemain de la cérémonie. Je pense à une lettre de Philippe Vianney. Disant une ode à la jeunesse comme ça, au titre du gaullisme, on n'en avait peut-être pas besoin pour la résistance. Christian Pinault avait fait également un papier le lendemain, disant « Moulin n'a jamais été parachuté, j'étais dans le même avion que lui, j'en sais quelque chose, on a atterri ensemble dans un Lysander ». Donc,
Olivier Todd.
Le début du passage qui vient d'être lu, à mon avis, est plus intéressant que les envolées sur la jeunesse. Au début, Malraux parle de la mort, un thème qui est dans tous ses bouquins, pratiquement, ça c'est très important, mais il parle aussi de la torture, autre thème. Et Malraux est un des rares à avoir suggéré qu'il ne savait pas ce qu'il ferait, lui, s'il était torturé, hein, et pire, ceux qui ont parlé. Et ça, je crois que c'est très important, c'est le côté, je trouve, éminemment sympathique, au sens strict, hein, on souffre avec lui. Il avait vu suffisamment de choses pour comprendre qu'on ne pouvait pas simplement vouer aux gémonies les résistants qui avaient parlé. Et alors tout ça se rattache aussi probablement à la façon dont il avait ou n'avait pas du cyanure avec lui. Là, je crois qu'il est capable de se mettre dans la peau de tous les gens à la tête desquels il aurait voulu être. Parce que Malraux a voulu et a suggéré dans son roman Non, le fragment de son roman, il a suggéré qu'il a été chef de la résistance, que le colonel Berger a pris la place de Jean Moulin. Ce sont des foutaises.
Peut-être. Donc le colonel Berger, admirables. Rappelons-le, c'était le nom de résistance à partir de 1944 d'André Malraux. Il se rêve donc dans ce roman inachevé, Non, à la tête de la résistance. Est-ce qu'après Jean Moulin, Olivier Todd, c'est Malraux lui-même qui, quand il est entré au Panthéon en 1996, peut-être que la panthéonisation, c'est au fond l'œuvre de toute sa vie, son grand œuvre?
Bon, je pense qu'il y avait deux thèmes qu'il ne fallait pas aborder, semble-t-il, avec Malraux, si je me souviens bien des conversations que j'ai pu avoir avec Florence Malraux. C'est d'une part le Nobel. Quand la saison du Nobel arrivait, il ne fallait absolument pas parler. C'était hors sujet. Et puis, il y a l'autre thème, c'est précisément la panthéonisation. Je ne connais personne à qui il ait pu dire, mais Saint-Jérôme en corrigera sûrement, à qui il ait dit « moi je veux être panthéonisé ». Mais il a fait ce qu'il fallait pour l'être. Hein. Et surtout, et ça c'est la clé de toute sa mythomanie, non seulement il a beaucoup menti, mais il a été couvert dans ses mensonges. Et par qui a-t-il été couvert? Par le général de Gaulle dans ses mémoires, par Pompidou dans ses écrits, par des tas d'universitaires qui jusqu'à très récemment continue à dire que ses péchés véniels ou ses péchés capitaux n'avaient aucune espèce d'importance à partir du moment où on comprenait leur origine. Parce que les mensonges, hein, il faut les classer quand même. Il y a les péchés véniels. Au début de sa vie, quand il dit « je suis diplômé de l'école des langues orientales », on peut laisser passer, c'est pas très grave. Et quand il dit à la fin de sa vie devant une commission de l'Assemblée nationale, quand j'ai connu Staline, mais il n'a jamais connu Staline, il l'a vu sur la place rouge.
En train de bourrer une pipe en retrait d'une manifestation.
Ce qui est plus grave, ce sont les choses qu'il a pu dire à propos de la résistance, à propos de sa rencontre avec Mao dans ses mémoires.
Là, elle a vraiment eu lieu. Hein, elle a vraiment eu lieu.
Mais mon cher Saint-Chiron, elle a eu lieu. Mais il y a eu des comptes rendus, il y a eu 5 comptes rendus au moins. Et ce que Malraux raconte, ce sont des fariboles. Et là, il se conduit face à Mao comme un faillot. Comme un faillot. Alors là, je vous renvoie au texte qui existe. Et j'ai eu moi-même aussi un supplément. Il se trouve qu'un de mes amis, Édouard Baird, a assisté à cette rencontre.
Il s'est glissé dans la délégation française. Il s'est d'ailleurs fait engueuler par l'ambassadeur qui voulait lui prendre ses notes. Malraux, là, a été absurde. Et alors, il avait de Mao une idée grandiose,
hélas,
qui a été partagée plus tard, je vous le rappelle, par Giscard d'Estaing, qui en a dit de belles à un moment de la mort Mao.
Il y a donc toute une légende, André Malraux, et il s'en explique lui-même à la fin de sa vie au micro de Jacques Chancel.
On n'est jamais sensible à sa propre légende. C'est une chose qui erre autour de vous. Et on ne peut pas, vous le savez comme moi, se regarder sur le miroir. Eh bien, on ne peut pas non plus saisir sa légende. Elle est aussi loin de vous. Et j'ajoute, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Avez-vous l'impression, André Malraux, que vous avez été inventé pour une mission bien précise?
Sûrement
sur
pas.
Cette terre.
Sûrement pas. Il m'est arrivé de faire certaines choses dont je me suis aperçu après qu'elles étaient peut-être pas mal. Et j'en suis certainement content, mais je ne me croyais prédestiné à rien.
François de Saint-Chéron, si la vie de Malraux n'avait ni fin ni but précis, qu'il n'était prédestiné à rien, comme il le dit dans cette archive à Jacques Chancel, quel regard portait-il sur, non pas sa légende qui erre autour de lui, mais sur la mort?
Comme vient de le rappeler Olivier Todd, la mort est présente dans tous ses livres. Depuis le début, même les écrits farfelus, jusqu'à L'homme précaire et la littérature, son livre posthume, en particulier dans les antimémoires, dans les oraisons funèbres, hein, qui par définition parlent de la mort, dans Lazare.
Ouais, hein, superbe livre.
C'est un très beau livre, aussi oui. Assez petit. Hein. J'aime beaucoup ces livres, on parlait du temps du mépris tout à l'heure, qui sont relativement brefs. Chez Malraux, c'est le cas de Lazare, qui est un livre très, très nerveux, sans emphase. Hein. Beaucoup de critiques ou de commentateurs l'avaient remarqué. Il apporte un ton assez nouveau dans l'œuvre de Malraux par rapport à certaines choses qui peuvent paraître effectivement emphatiques ou excessives. Et moi, j'aime pas particulièrement et même pas du tout le dialogue avec Mao dans les antimémoires. Hein. C'est pas du tout des pages de Malraux qui me font vibrer. Je préfère de loin, effectivement, Lazare, qui est un livre très frappant. Alors, on peut pas résumer en une phrase la pensée de Malraux sur la mort, mais il y a tout de même quelque chose qui me revient à l'esprit et qui est intéressant, parce que c'était pas du tout un homme de système. C'est que dans l'espoir, il y a un personnage qui dit « Toute opinion décisive sur la mort est si bête ». Donc il y a quelque chose d'empirique, si vous voulez, enfin si on peut parler d'expérience de la mort, justement personne n'en a, mais à l'approche de la mort du moins, ou en voyant autour de soi les gens mourir, on peut éprouver certaines choses. Et Malraux a parlé de ça, mais il n'a pas de théorie ni d'idée précise.
Olivier Todd, précisément à propos de cette présence et de cette expérience peut-être de la mort chez André Malraux, il y a des morts qui jalonnent sa vie. On songe à la mort de l'un de ses frères à l'âge de 3 mois. Lyotard, dans Signé Malraux, en avait fait un élément très important de son destin. Il y a la mort de son père, suicidé en 1930. Il y a celle de ses 2 demi-frères pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, celle de sa compagne, Josette Clotis, à la fin de la guerre. Quelle place?
Et puis celle de ses deux fils. Celle de ses deux fils au début des années 60. Une épreuve terrible.
Mais... Et quelle place tous ces morts tiennent-ils, selon vous, dans le destin ou l'antidestin de Malraux?
Ça l'a beaucoup frappé. Mais il a surmonté. Après la mort de ses deux fils, il va à l'Élysée. Et il dit à Madeleine Malraux, sa deuxième femme, « Tout le monde nous regarde ». Et puis le soir de la mort de ses deux fils, quand on lui annonce, il dit à sa sœur, il dit à sa fille, « Quel roman que ma vie !» Et je crois que ça, c'est ça la chose importante, c'est que Malraux, à mon sens, a eu 2 très beaux romans, « L'espoir » et « Sa vie ». D'ailleurs, si on racontait anonymement la vie de Malraux, on n'y croirait pas. Il y a eu tellement de bouleversements, d'allers-retours,
d'aventures,
de déclarations. Il est extraordinaire.
Hein. Je voudrais apporter.
Il est civil, il est militaire. Ça aussi, c'est une chose qu'il faudrait souligner. Il est fasciné par le militaire. Depuis le début, ce première classe qui finit colonel, nommé par lui-même, est assez curieux.
Un tout petit correctif à ce que vient de dire Olivier Todd. Au lendemain de la mort de Malraux, quand il va à l'Élysée avec Madeleine, il ne lui dit pas « on nous regarde », peut-être qu'il l'a pensé. Il lui dit une phrase pire, « Nous faisons peur ».
Oui.
Nous parlons de la mort, de la présence de la mort avec vous, François de Saint-Chéron, dans toute l'œuvre de Malraux, mais nous n'avons rien dit encore de la présence de la mort, peut-être essentielle, dans ses écrits sur l'art qui vont constituer la part la plus importante de son travail après la Seconde Guerre mondiale, de ses écrits. Je vous propose de l'entendre à la fois à nouveau avec ce ton d'orateur qui est le sien, lisant un extrait des Voix du silence.
Sans doute un jour, devant les étendues arides ou reconquises par la forêt, nul ne devinera plus ce que l'homme avait imposé d'intelligence aux formes de la terre, en dressant les pierres de Florence dans le grand balancement des oliviers toscans. Il ne restera rien de ces palais qui virent passer Michel-Ange exaspéré par Raphaël, ni des petits cafés de Paris où Renoir s'asseyait avec Cézanne, Van Gogh avec Gauguin. L'éternel de la solitude n'est pas moins vainqueur des rêves que des armées, et les hommes n'ignorent guère tout cela depuis qu'ils existent et savent qu'ils doivent mourir. J'ai vu l'océan malais constellé de méduses phosphorescentes aussi loin que la nuit permit au regard de plonger dans la baie. Puis la frémissante nébuleuse des lucioles qui couvrait les pentes jusqu'aux forêts disparaître peu à peu dans le grand effacement de l'aube. Si le destin de l'humanité est aussi vain que l'était cette lumière condamnée, l'implacable indifférence du jour n'est pas plus puissante que la méduse phosphorescente qui sculpta le tombeau des Médicis dans Florence asservie, que celle qui grava les trois croix dans la solitude et dans l'abandon.
François de Saint-Chéron, que nous dit André Malraux sa foisonnante, peut-être luxuriante pensée esthétique, ses écrits sur l'art, comme on l'entend ici, teinté de surnaturel.
L'ensemble de ses écrits sur l'art, c'est vraiment un pan considérable de son œuvre. Pas seulement quantitativement, bien sûr, mais même quantitativement, c'est deux gros volumes de la Pléiade. Donc c'est une partie considérable de son œuvre et il y a travaillé, non pas exclusivement, mais beaucoup depuis les années 30, même si le musée imaginaire date de 1947, jusqu'à la fin de sa vie. Alors, ce qui est très singulier, c'est la manière dont il aborde la création artistique, un petit peu dans la suite de ses romans, d'ailleurs en faisant des grands artistes, des héros qui affrontent la mort. Et puis, il y a aussi cette volonté de création d'un monde autonome, qui est une chose qui a énormément compté dans les écrits sur l'art de Malraux, depuis le musée imaginaire jusqu'à l'intemporel. D'où l'importance qu'avaient pour lui les arts sacrés. Il a écrit un admirable livre sur l'art roman et l'art gothique et le surnaturel, le premier volume de la Métamorphose des dieux. D'où l'importance de Rembrandt, de Goya, de Picasso, des arts africains et océaniens. Si vous voulez, cette idée de la création d'un monde autonome, elle me paraît bien résumée par cette formule qu'on trouve dans l'intemporel. Le fétiche ne balbutie pas la langue des formes humaines, il parle la sienne. Il y a une autonomie du langage de l'art, sur quoi Malraux a énormément insisté. Il y a aussi la rivalité que l'artiste entretient avec le monde réel, d'où sa formule qui résume aussi d'une certaine partie. D'une certaine manière, un aspect de sa réflexion, l'artiste n'est pas le transcripteur du monde, il en est le rival.
Il y a quelque chose, François de Saint-Chéron, d'étonnant dans sa pensée, dans ses écrits sur l'art, c'est cet art précisément de télescoper, de concaténer, de faire se rencontrer, se superposer les styles qui peuvent être des arts qu'on appelle aujourd'hui primitifs, des artistes de la Renaissance, des artistes les plus contemporains qui sont ses contemporains, quand en particulier les ministres des Affaires culturelles. Cette façon de concaténer les siècles et les styles, Eddy Cadour, ça vaut aussi, selon vous, pour son art du roman ?
Dans la condition humaine, par exemple, il est capable de, dans la foulée, de faire à la fois une page d'écriture-action, de type de reportage, quoi, avec des ellipses, des styles directs très, très saccadés. Et puis, la page suivante, c'est le moment de l'agonie, de ce qu'on appelle l'agonie du train blindé. Ça devient une page d'écriture quasi mythique, vous voyez. Et il fait ça dans le même mouvement et en rythme. Il arrive à trouver un rythme romanesque qui lui permet justement d'ouvrir la palette au maximum, de passer du comique au tragique, du mythique au reportage, etc., avec une maestria assez remarquable. Et c'est quelqu'un qui, en même temps, ça c'est Henri Godard qui me l'avait fait découvrir, un autre spécialiste de Malraux, il a une vraie pensée de l'art d'écrire. Il a une vraie pensée de l'art d'écrire, il a une vraie pensée du rapport au texte des autres, il a une vraie pensée de la façon dont on... Il dit qu'il faut des années à un écrivain pour trouver le ton de sa propre voix. Il dit qu'on commence toujours par écrire comme les autres. Et on a à peine 10% de personnel. Et puis au fur et à mesure, il va falloir augmenter cette part singulière qui est la sienne. Il y a une vraie pensée du pastiche dépassé qui devient un filtre à nouveau à regarder le réel, etc. C'est vraiment remarquable. C'est une des conceptions de l'art d'écrire, je dirais, une des conceptions fortes de l'art d'écrire au XXe siècle.
L'art commence par l'imitation. C'est ce que Malraux a toujours dit et redit, autant pour ce qui concerne le domaine de la peinture que celui de la littérature. On commence par l'art des autres et on finit par le sien, si justement on trouve sa voie. Ce qui implique aussi une rivalité avec les maîtres, avec ceux qui nous ont précédés. Je voudrais ajouter une toute petite chose à ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de ce mélange, de ce télescopage des époques dans les écrits sur l'art de Malraux. C'est vrai pour les voix du silence, mais en fait c'est beaucoup moins vrai pour le grand massif de la métamorphose des dieux auquel il a travaillé des années 50 jusqu'à 1976, l'année de sa mort. La métamorphose des dieux, c'est 3 volumes, hein, le premier, le surnaturel, le deuxième, l'irréel, et le troisième, l'intemporel. Et là, il se soumet davantage à l'histoire, puisque le premier évoque en gros l'art depuis Sumer jusqu'à la fin des cathédrales. Le deuxième, c'est la Renaissance jusqu'à la mort de Rembrandt. Et le troisième commence avec Delacroix, Manet, etc. et vient jusqu'à l'audiovisuel, les arts du hasard, les arts des fous, etc. Et ça, c'est beaucoup moins confus, si l'on veut. En tout cas, c'est beaucoup plus construit. Il suit, bien qu'il n'écrive pas une histoire de l'art, il suit tout de même quelque chose d'historique.
Eddy Kadour, nous sommes ici aujourd'hui au Panthéon, un lieu où repose depuis 1996 André Malraux. Mais qu'est-ce qu'il faudrait garder de Malraux vivant en nous ?
Le relire la condition humaine, relire les anti-mémoires.
Il faut retenir l'écrivain avant tout, l'écrivain de l'espoir, du temps du mépris, de Lazare et aussi, en tenant compte du fait que là aussi il a beaucoup bluffé, les chaînes qu'on abat. Et essayons de voir un homme qui a quand même eu beaucoup de courage par certains moments, à certains moments, mais il n'a pas toujours eu les positions qu'il prétendait avoir eues face à Mao, face à De Gaulle, même face un peu à la guerre d'Espagne dont nous gardons tous une certaine nostalgie, parce que j'aime beaucoup l'espoir, je l'ai dit, je le répéterai, mais il a passé quelques mois en Espagne et il s'est vanté de blessures reçues en Espagne qu'il n'avait pas reçues.
Mais avant de s'endormir pour l'éternité ici au Panthéon, Malraux a passé de longues années, celles de son enfance, à Bondy, rue de la Gare, au-dessus de la confiserie de sa grand-mère. Qu'est-ce qu'il en a gardé tout au long de son existence ?
Il a voulu n'en rien garder.
Malraux avait certainement un très très profond désir de revanche sociale.
Oui.
Il n'y a pas de doute. Il n'y a absolument pas doute, il avait des ambitions, une soif de lecture et de découverte artistique tout à fait extraordinaire. Il allait au théâtre, il a beaucoup lu des bouquins empruntés à la bibliothèque municipale de Bondy. Oui, tout à fait. Et il a commencé à se former dès les 18-20 ans une culture extraordinaire, aidé par une très très vaste mémoire.
Complexe, hein, le Malraux, complexe, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'était André Malraux, une émission enregistrée en public au Panthéon pour les 30 ans de l'émission Une vie, une œuvre, avec Eddy Kadour, Olivier Todd, François de Saint-Chéron et la participation de Jean-Marie Straub. Lecture André Wims, texte extrait de L'Espoir, La Voix royale et du discours lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Cette émission était produite par Martin Kénéen et réalisée par Doria Zénine. Prise de son et moyens techniques ici au Panthéon, Marcos Darras, Pierre Quintard et Rémi Gouriou. Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Réécoute, commentaires, podcasts et compléments sur franceculture.fr. La semaine prochaine, Une vie, une œuvre vous donne rendez-vous avec La mulâtresse Solitude. Et tout de suite, c'est Le temps des écrivains de Christophe Onodibio.